Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour ce numéro du mardi dédié au Green. Voilà, sur Radio Immo et sur Bismarck, on est ravis de vous accueillir pour ce numéro de la Côte Immo. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sylvain.
Alors un rendez-vous immobilier qui décrypte l'actualité, qui vous donne les clés de lisibilité. Aujourd'hui, je vous propose de décrypter l'actualité du Green. C'est désormais officiel, la guerre au passeport énergétique est déclarée. Ça y est, c'est fait. Pour rappel, une passoire énergétique, c'est un logement dont le critère DPE, diagnostic de performance énergétique, sur les 7 lettres énergétiques, c'est la lettre F et G. Elle indique leur consommation d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre. Elle laisse grandement à désirer, notamment pour la location ou l'achat. On voit qu'il y a ce qu'on appelle une green value, une valeur verte sur les immeubles. Jugez plutôt, dès l'année prochaine, il sera interdit de louer les biens étiquetés G au DPE et consommant plus de 450 kWh au mètre carré par an. En 2025, l'interdiction touchera tous les logements classés G. On parle de millions de logements. Et pour en parler avec nous, on fait un petit tour d'horizon. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Charlie Caillou. Bonjour. Alors Charlie Caillou, vous êtes conseiller juridique au PAP particulier à particulier Nicolas.
Bonjour Charlie Caillou, donc on va revenir dans un instant avec vous dans l'interview effectivement pour comprendre effectivement le DPE mais aussi l'audit énergétique à venir qui est une grosse source d'angoisse effectivement d'un certain nombre de particuliers. Et dans un deuxième temps dans l'émission, nous recevrons Pierre Évrard, chargé de mission développement durable et rénovation énergétique à la FNAIM, et on se demandera là aussi quels sont les avantages d'un meilleur DPE. On se retrouve tout de suite dans Green Immo. Bonjour Charlie Caillou, donc on reprend avec vous, on a eu l'occasion de vous découvrir déjà dans le sommaire, vous êtes conseiller juridique chez PAP, qui est la contraction de particulier à particulier. Oui. Donc on a envie de vous poser des questions qu'on se pose quand on est particulier, qu'on a envie d'acheter ou vendre un bien immobilier. Alors je pense plus à un appartement, parce que quand on parle de passoire énergétique, on a appartement en tête. D'ailleurs c'est une hérésie, parce qu'il y a beaucoup de maisons qui sont des passoires énergétiques aujourd'hui.
Oui, absolument, absolument. Et si on parle de l'audit énergétique, puisque c'est le thème de l'émission, l'audit énergétique ça concerne beaucoup de maisons, hein, puisque l'audit énergétique, c'est pour les monopropriétés, c'est-à-dire les maisons individuelles, et les immeubles en monopropriété, c'est-à-dire les immeubles qui ne sont pas en copropriété, justement.
Et alors, expliquez-nous, en tant que particulier, intéressé par ces sujets immobiliers, on suit régulièrement l'actualité de l'immobilier, on voit un DPE qui est introduit sur le marché, qui rentre et qui sort, un deuxième qui rentre, une troisième version à venir, et surtout un audit énergétique. Alors déjà, effectivement, on a un DPE dont on a du mal à comprendre s'il va faire gagner ou perdre de la valeur à notre bien, ou s'il va surtout faire gagner ou perdre de la capacité de négociation à la personne qui va acheter le bien en question. Ça, c'est que le début. Et derrière, il y a un audit énergétique qui va encore plus loin. Est-ce que, du coup, on doit avoir encore plus peur de l'audit énergétique ?
Disons qu'effectivement, cet audit énergétique, il va permettre à l'acheteur de pouvoir négocier de manière plus précise, de manière plus argumentée, le prix de vente, puisque dans cet audit énergétique, l'auditeur doit indiquer des scénarios de travaux avec un tarif pour ces travaux. C'est-à-dire, d'accord, pour cette maison, il faudra faire tel type de travaux et ça va coûter tant d'argent.
Ce qui n'est pas le cas dans le DPE aujourd'hui. Là, on a des indications un petit peu de changer ceci ou changer cela, mais on n'a pas de tarification des travaux.
Il y a un peu ça déjà dans le DPE, mais de toute façon, cet audit énergétique, c'est une sorte de super DPE, en fait. Hein.
Okay.
C'est à peu près le même champ de recherche, c'est-à-dire qu'on fait un constat des caractéristiques architecturales et thermiques de la maison ou de l'immeuble en monopropriété. On fait des scénarios de travaux, on calcule le montant des économies d'énergie qu'on pourrait obtenir en faisant les travaux, et on calcule le montant des travaux et les aides auxquelles on peut avoir droit. L'audit énergétique, en fait, c'est un super DPE parce que c'est fait par une personne qui est plus qualifié, entre guillemets, qu'un diagnostiqueur. Il faut avoir une,
d'accord,
certification,
ah, donc,
supérieure.
C'est pas le même expert qui se déplace chez vous, c'est quelqu'un d'autre.
Ça peut être le même expert, mais il faut que ce soit un diagnostiqueur certifié ou un architecte certifié, ou pour les immeubles, donc les plus grandes surfaces, un bureau d'études techniques,
d'accord,
certifié lui aussi.
Donc ça va, j'imagine, poser des questions de formation, mais ce n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui.
Ça va des questions de formation.
En espérant qu'on n'ait pas un nouveau fiasco sur l'audit énergétique. Donc je reviens sur ma question, est-ce que l'audit énergétique doit faire plus peur aux propriétaires que la réforme du DPE ?
Je complète, audit énergétique, c'est un préalable. C'est un préalable aux travaux, une obligation qui a été fixée dans un cadre réglementaire. On est bien d'accord là-dessus ?
C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on vend une maison ou un immeuble en monopropriété, on doit faire forcément un DPE avant la mise en vente. Et si ce DPE donne comme lettre F ou G, alors il faut faire revenir un expert pour faire l'audit énergétique qui lui va détailler de manière plus... Enfin, il va détailler tout ce qu'a dit déjà le DPE, mais avec des...
Alors, c'est fixé dans un cadre plus précis. Qui est réglementaire dans le cas des ventes en bloc, ce qu'on appelle la monopropriété. Et c'est aussi un cas d'opposabilité, notamment sur l'acquisition pour des preneurs qui, in fine, pourraient éventuellement, à la lumière des résultats de l'audit, éventuellement se désister de la vente.
Absolument, c'est-à-dire que si l'acheteur se rend compte que ce qu'on lui a donné comme information n'était pas vrai, effectivement, il peut se retourner contre le vendeur qui lui-même peut se retourner contre la personne qui a fait l'audit.
Ou dans la période de compromis, voir que les travaux sont trop élevés par rapport à ce qu'il imaginait et se finalement aussi se désister.
Pour moi, c'est une obligation d'information, c'est-à-dire qu'elle doit être fournie au moment de la visite. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre bien en amont. Comme
avant même de signer le compromis.
Exactement. Et on remet ça au plus tard lors du compromis de vente. Et c'est à ce moment-là que l'acheteur doit se dire, est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas. En fait, c'est un super diagnostic, cet audit énergétique.
Mais alors, il y a une chose qui n'est pas claire pour moi, c'est que ça peut vous obliger à faire les travaux à partir du moment où le vendeur a fait un audit énergétique qu'il a transmis à l'acheteur. Ça peut obliger l'acheteur à faire les travaux derrière ?
Jamais.
Non,
jamais. C'est vraiment une obligation d'information qui permet à l'acheteur de savoir s'il est prêt à s'engager à acheter une passoire énergétique en sachant qu'il aura peut-être des travaux à faire ou qu'il devra subir des grosses factures d'énergie.
Ou alors qu'il devra les faire si jamais il veut louer derrière son bien.
Exactement.
Donc ça va obliger pour le coup le propriétaire bailleur ou l'investisseur locatif.
Exactement ça. Ouais.
Alors on l'a vu, c'est... Une véritable épée de Damoclès, si on peut dire les choses comme ça, au-dessous des petits propriétaires. Pour rappeler quand même que plus des deux tiers aujourd'hui de la détention sont des petits propriétaires dans le parc locatif privé, avec un rappel quand même important, c'est que les deux tiers des occupants du parc locatif privé, eux, seraient éligibles au logement social. C'est dire en fait l'importance de la location privée pour loger les Français. Alors, interdiction de location à laquelle devront se soumettre les propriétaires de logements gourmands en énergie. Perspective aussi du durcissement du permis de louer, ça a été clairement annoncé, et même une généralisation de l'encadrement des loyers dans d'autres villes, ça a déjà été aussi annoncé. Alors selon Sologer, la part de maisons étiquetées F ou G dans les annonces immobilières a bondi de 11,4% en 2019 à 14% en 2021. Moi, la question que je vous pose, c'est que vous êtes un portail d'annonces pour les particuliers. Est-ce que vous observez les mêmes chiffres ? Est-ce qu'il faut s'attendre à une aggravation de la situation avec de plus en plus de passoires de jour en jour ? Puisqu'en fait, on a des estimations, mais quand on voit la réalité, on a l'impression que les chiffres sont très au-dessous de la réalité.
Alors sur les chiffres, moi j'ai pas de chiffres particuliers. Ce qui est certain, c'est que avec les propriétaires que l'on a en contact, eh bien, on a d'abord senti beaucoup d'inquiétude et une sorte de lassitude d'une nouvelle obligation nouvelles obligations qui se rajoutent effectivement avec l'encadrement des loyers.
C'est de l'inflation, mais normative.
Effectivement, et avec des règles qui sont pas toujours très claires, avec
qui évolue.
Si on parle de la rénovation, exactement, sur la rénovation énergétique avec des aides dont on ne sait pas exactement comment il faut les demander. Enfin, tout ça est un peu compliqué. Donc, il y a une sorte de lassitude des règles qui s'ajoutent. Sur le nombre d'annonces, effectivement, je pense qu'il y a peut-être plus d'annonces F et G, puisque les propriétaires sentent que là, ils vont faire face à un mur de travaux à faire. Et donc, parfois, ils sont un peu inquiets. On essaie quand même de les rassurer en disant, avant de mettre en vente, il faut quand même vérifier, en fait, quel est les démarches à effectuer pour peut-être mettre son bien à jour et ne pas perdre tant que ça. Donc il y a quand même des démarches à effectuer, il y a quand même des aides qui sont disponibles. Moi j'ai l'impression que la pire des choses, c'est pas tellement le fait que les règles soient compliquées, c'est plutôt qu'elles sont floues et on ne sait pas trop vers où aller. Donc on essaie de les orienter vers les organismes qui peuvent leur permettre de faire ces travaux, et donc, ou en tout cas de prendre la bonne décision, vendre ou faire les travaux.
Nicolas.
Mais alors justement, quand on est propriétaire, je reviens sur une question que j'ai déjà posée, mais pour que ce soit très clair, quand on est propriétaire et qu'on met son bien en vente sur PAP ou sur d'autres effectivement plateformes, est-ce qu'on doit avoir peur d'une grosse décote de son bien immobilier en lien avec l'évolution de la réglementation sur les passoires énergétiques ?
Alors, vous avez peut-être vu déjà l'étude des notaires sur la valeur verte des logements et donc sur la plus-value ou la moins-value. On parle beaucoup des plus-values avec les logements qui
Bien
sont
sûr,
économes en énergie, mais il y a aussi des moins-values. Et ça dépend beaucoup des régions, en fait.
D'accord.
Vous voyez, en Ile-de-France, par exemple, la valeur verte, on ne la ressent pas trop. Pas trop encore, parce que ce qui est le plus important en Ile-de-France, c'est d'avoir un logement. Il y a beaucoup de demandes, donc le critère principal, ça reste quand même l'emplacement, l'adresse. C'est toujours ça qui est le critère le plus important.
Sur des marchés en tension, le sujet des cotes en lien avec la passoire énergétique, enfin avec la valeur verte d'un bien,
c'est
beaucoup moins ressenti.
En revanche,
sur des maisons, effectivement, dans des régions un petit peu plus isolées, mais je voyais notamment, par exemple, que dans les Hautes-Alpes ou dans le Cantal, où il y a beaucoup de passoires énergétiques, là, il faut avoir peur peut-être de la valeur que pourrait avoir son bien quand il serait réellement mis sur le marché.
Oui, effectivement, oui, c'est une question qui forcément va venir lors de la discussion, lors de la négociation avec l'acheteur, ça c'est certain, oui. Et dans l'étude des notaires, il me semble qu'en Nouvelle-Aquitaine, pour les maisons, si vous êtes en F ou en G, on observe des décotes de 20% par rapport à un bien qui est en D, c'est-à-dire qui est moyen, pas qui est très performant, mais qui est simplement moyen.
On a l'occasion, sur Radio Immo, de visiter la France un peu dans tous les sens. Et effectivement, les endroits montagneux, c'est une explosion de passoires énergétiques, entre guillemets,
bien sûr.
Très consommateurs, effectivement, d'énergie. Et c'est vrai, moins sur le littoral, ça, c'est tout à fait juste. Et en même temps, on a vu des écarts, effectivement, lorsque les travaux sont réalisés par rapport à la valeur ou la possibilité de faire une plus-value correcte, l'écart peut aller jusqu'à 25% sur des maisons et de 15 à 20% sur de l'habitat collectif. Donc, ce n'est pas neutre.
Non, ce n'est pas neutre du tout.
Comme sujet.
Mais alors, on fait quoi ? On fait les travaux avant de vendre ou on vend en acceptant qu'on vend moins cher ?
Ça dépend. Voilà, justement. Bonne question. Ça, c'est une bonne...
Voilà. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est prendre les informations. C'est aller chercher les informations, essayer de voir à combien, à quelles aides on peut prétendre, quels sont les travaux que l'on doit faire. Et ça veut dire qu'il faut faire un DPE, en fait. Faut commencer par faire un DPE, même si on sait que le DPE, il y a une étude qui a été publiée ce mois-ci, en tout cas, dans le magazine 60 millions de consommateurs, qui dit que le DPE n'est pas toujours très fiable et qu'entre deux
ça
boîtes...
Ça peut changer d'un diagnostiqueur à l'autre.
Bah oui, ça peut passer de une à deux lettres de différence. Donc, mais en tout cas, il faut faire ce DPE. Ce DPE permet de savoir en fait où on en est, ce que l'on peut engager, combien ça peut coûter. Et c'est sur cette base-là ensuite qu'on a les arguments pour vendre et pouvoir aussi donner de l'information intéressante à l'acheteur ou au contraire faire les travaux soi-même.
Alors, dernière question. Pour qu'on comprenne bien pour ceux qui nous écoutent, il n'y a pas d'obligation de faire les travaux, on est d'accord ?
Jamais, ni pour le vendeur, ni pour l'acheteur.
Donc pas d'obligation, je vous rassure pour certains, vous pouvez vendre. Bien évidemment, on l'a dit, il y a un risque de négociation de prix si votre étiquette n'est pas super bonne. Par contre, l'obligation est faite pour vendre, de faire un diagnostic de performance énergétique versus nouvelle mouture. C'est-à-dire que ce DPE, il est opposable. Il est opposable par celui qui le fait. C'est-à-dire que le diagnostiqueur engage sa responsabilité.
Absolument.
C'est bien ça. Maintenant, dans les préconisations, on recommande éventuellement la possibilité de faire les travaux si on veut vendre un peu mieux. Justement, le portail qui s'appelait MaPrimeRénov', qui est devenu France Rénovation, avec mon accompagnateur Rénov', est-ce que vous arrivez à décrypter chez PAP les arcanes, des aides qui s'empilent les unes aux autres ?
Je dirais que c'est plutôt compliqué, mais ces aides, elles ont le mérite d'exister. Elles sont peut-être pas toujours satisfaisantes. Je pense qu'il faut pas trop essayer de comprendre comment fonctionne le millefeuille des aides. En revanche, il faut effectivement aller chercher un conseiller auprès de France Rénov' pour avoir ces informations-là.
C'est souhaitable d'aller directement sur le portail.
Absolument. Il y a aussi, pour la copropriété, des services qui s'appellent comme les coachs copro. À Paris, je crois que c'est l'Agence parisienne du climat qui peut faire ça et qui peut vous aider, qui peut vous orienter vers les personnes pour les travaux, pour les personnes pour les aides. Et donc, je pense qu'il faut, en fait... Avant de prendre toute décision, accumuler des informations pour ensuite prendre la décision la plus pertinente.
Merci beaucoup, Charlie Cailloux, d'être passé par le plateau de la Côte Immo. Je rappelle que vous êtes conseiller juridique au PAP, PAP particulier à particulier. On enchaîne tout de suite avec le chiffre du jour, Nicolas.
Oui, le chiffre du jour qu'on donne du coup en fin d'interview, 8%. 8%, c'est l'estimation de l'augmentation du surcoût du prix de construction dans les logements avec la mise en application environnementale RE 2020, selon la Fédération française du bâtiment. Bon, bah, ça vient dans le sens effectivement de ce qu'on était en train de se dire. Ces nouvelles normes incitent à construire en utilisant des matériaux dits biosourcés, comme le bois que vous voyez autour de moi, plutôt que du béton ou de l'acier plus polluant à la production, Sylvain. La norme RE 2020 oblige également les nouveaux logements qui y sont soumis à être mieux isolés contre le froid, la chaleur, à avoir un impact modéré sur le climat. Objectif, ne pas faire porter aux locataires le coût colossal de ces travaux. Bon, ça remet un peu le sujet sur la table de savoir s'il faut tout faire porter sur la tête ou sur les épaules des propriétaires, mais ça n'est pas le sujet du jour. Merci beaucoup en tout cas, Charlie Cailloux, conseiller juridique chez PAP. Merci. Et on se retrouve tout de suite dans l'Expert Immo. De retour sur le plateau de la Côte Immo, nous allons continuer avec ce sujet du DPE, de la rénovation des passoires énergétiques ou de l'audit énergétique. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est: un meilleur DPE permet-il de vendre plus cher et plus vite? L'interdiction de louer qui se dessine à l'horizon 2025 pour les biens étiquetés G, 2028 pour ceux classés F, pousse de nombreux propriétaires à vendre plutôt qu'à rénover. Mais si elle est bien notée au DPE, une habitation se vend-elle non seulement plus vite, mais aussi plus chère qu'une autre dont la consommation énergétique et la production de gaz à effet de serre laisseraient à désirer? Et si c'est le cas, à combien se monte le gain, que ce soit en temps ou en argent? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de la Côte Immo Pierre Évrard. Bonjour Pierre Évrard.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue sur le plateau de la Côte Immo. On est ravis de vous recevoir avec Sylvain sur ce plateau. Pierre Évrard, vous êtes chargé de mission développement durable et rénovation énergétique de la FNAIM. Alors, on a décidé de prendre le sujet à l'envers avec Sylvain, c'est-à-dire que d'habitude, on vient à se demander, en fonction de la lettre, d'une mauvaise note, en fait, sur son DPE, de combien ça fait perdre de valeur à un logement. Là, on s'est dit, mais si on a un bon DPE, est-ce que, du coup, on peut considérer que ça peut devenir un argument pour faire augmenter la valeur de son logement? Et alors, première question que j'ai envie de vous poser, dans l'immobilier, on a tendance à dire emplacement, 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 c'est le premier critère à regarder. Est-ce que demain, on dira emplacement, DPE, DPE? Et peut-être encore un peu en placement.
Eh bien, c'est très simple. C'est que depuis déjà quelques années, finalement, le lettrage du DPE pour les biens classés A et B est en effet extrêmement positif.
D'accord.
Alors, les notaires ont mené une très très belle enquête là-dessus depuis, de mémoire, je crois que c'est 2014, et qui montre clairement que quand un bien est classé A ou B, en effet, il est vendu entre plus 8 et plus 12%. Plus cher. Alors, plutôt sur les maisons individuelles. D'accord. Maisons individuelles, c'est vraiment en commun toute la France. Des disparités, cependant, sur les appartements où, par exemple, sur des régions comme l'Est, comme l'Aquitaine, on voit en effet une plus-value si le bien est classé A ou B. Et par contre, il y a certaines zones qui correspondent peut-être à des zones un peu plus tendues, on va dire,
sûr,
oui. Où là, clairement, sur les appartements uniquement, ça n'avait pas encore d'impact.
Donc en fait, quand on a un volume de demande suffisant, ça n'a pas forcément beaucoup d'impact à la hausse ou à la baisse, mais dès qu'on a moins ce volume, on voit automatiquement l'écart se creuser. En fait, il ne se creuse pas qu'à la baisse, il se creuse aussi à la hausse.
Ça dépend des territoires.
Voilà. D'accord.
Ça veut dire qu'il y a une conjonction. Je n'ai pas l'équation.
Bien sûr.
Mais
oui.
Il y a une conjonction.
Non, mais vous l'observez.
Entre,
oui.
Voilà, et les notaires l'observent. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'un bien qui est classé A ou B, en effet, je dirais, il y a la performance énergétique. Et il y a aussi la qualité de service du bien.
Alors, question de quelqu'un qui vit dans une ville, hein, mais des biens A ou B, il y en a beaucoup.
Oui.
Il y en a dans le neuf, effectivement, mais c'est à peu près tout.
Non, pas du tout.
Non ?
Non. Sur certains territoires, il y a eu des politiques de rénovation avec des régions qui ont voulu investir par le biais de systèmes de subventions. Et on a quand même pas mal de biens qui ont été, rénovés.
Quelle région, par exemple ?
Je pense à la Normandie, par exemple.
Exemplaire.
Vraiment exemplaire. Et d'ailleurs, un très très bon exemple, quand un bien est rénové, j'ai toujours cette image-là en tête, on avait remis un prix, parce que c'était une des premières rénovations, c'était une zone pavillonnaire années 70.
Donc des maisons individuelles.
Maisons individuelles.
Peuvent récupérer du A ou du B, d'accord.
Dans son jus. Donc ça veut dire, globalement, c'était du F. Hein. F, voire G sur certains trucs.
Dans son ça, jus, comprend pas.
Voilà,
ouais,
c'est ça.
Dans le voilà, je ne peux pas utiliser le terme passoire voilà. Parce qu'au sein de la fédération.
Un immobilier dans son jus, ça veut
après,
dire.
Après, on est passé d'épave thermique à passoire. Non, mais clairement, c'est... au milieu de cette zone pavillonnaire, qu'est-ce qu'on voyait ? Une super maison d'architecte.
Ah, bah oui.
Bah, c'était la même qui avait été rénovée. Et là, on se dit, oui, elle va partir, un, plus vite, deux, elle va partir plus cher. Donc, il faut voir, quelque part, le classement A et B en termes de performance énergétique, d'accord, mais aussi en termes de qualité de service, parce que quelque part, quand on rénove, il y a aussi une mise à jour du bien.
Bien sûr.
Et donc, la qualité de service augmente.
Mais donc, juste avant de passer la parole à Sylvain, pour bien comprendre, ça veut dire que même si j'ai une habitation, mettons une maison ancienne, très ancienne, qui a été conçue avec des réglementations complètement différentes, je peux avoir l'espoir aujourd'hui de récupérer une lettre A ou B, parce que par exemple sur les copropriétés, on ne l'envisage même pas, tant les travaux après sont à la charge de différents copropriétaires ou autres. Sur la maison, c'est possible.
Alors, sur la maison, c'est possible. Attention, parce qu'il faut vraiment avoir des équipes sur les territoires qui ont cette expertise.
D'accord.
Pourquoi je dis ça ? Parce que récemment, on a une recrudescence justement d'audits énergétiques et d'analyses qui montrent dans certains territoires, non, vous ne pouvez pas. Alors que quand on met de la bonne intelligence, mais quand on a des bons bureaux d'études, des bons architectes et des bonnes entreprises, globalement, on y arrive à 95%.
Alors justement, c'est bien le sujet du jour, puisqu'on va parler de massification. D'ailleurs, votre président, Jean-Marc Torollion, ne cesse d'en parler. Il parle de plus de 4,5 millions de passoires énergétiques concernées par les premiers cadres du plan qui finit donc en 2034. Hein, pour rappeler que le gouvernement s'est fixé un objectif très très clair. On a franchement l'impression qu'on ne va pas y arriver quand on voit l'immensité de la tâche. Moi, la question que je vous pose, c'est, vous qui êtes spécialiste de cette question, est-ce que vous observez des mouvements au sein de l'AFNAIM qu'on pourrait qualifier de désinvestissement ? Je m'explique. Des propriétaires qui vont dire, je jette l'éponge, je ne fais pas les travaux, je vais vendre et le plus vite possible.
Alors,
ou c'est vraiment un épiphénomène ?
Je ne le vois pas à l'heure actuelle de la part des administrateurs de biens. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, les administrateurs de biens sont en train clairement de reprendre leur parc, cibler les biens qui sont concernés par les potentielles interdictions pour commencer à œuvrer. Mais commencer à œuvrer, trouver d'abord déjà les sources de financement pour rénover cette part de stock.
Et ça marche.
Jusqu'ici, tout va bien. Sur la transaction, par contre, sur la transaction, un des messages aussi, c'est que donc là, les transactionnaires voient passer des biens classés F et G, qui sont vendus à la casse.
Et oui.
Allez, une transaction, 30% globalement, à la louche. Il n'y a pas d'études, 30% des personnes réelles, physiques, le reste de l'investissement. Et ce qui nous pose un problème, d'ailleurs, une problématique de logement. Par exemple, sur Paris, visiblement, ce type de biens sont achetés, ne sont pas rénovés et attendent un événement qui a lieu sportif en 2024.
Ah, donc voilà. Pour les rénover pour les louer ?
Donc vous pensez qu'il y a des personnes... ce que vous dites clairement, c'est qu'il y a des personnes qui spéculent sur les JO 2024 en achetant des appartements, on va dire... qui pourrait être nécessaire à mettre sur le marché. Dieu sait qu'à Paris, on a du mal à se loger. Mais ça, c'est un phénomène endémique. Mais je vais aller plus loin dans la démarche.
Sylvain, oui. je vais aller au-delà. Une majorité aussi des biens à l'heure actuelle sont achetés par des investisseurs, des sociétés d'investissement. Et je sais qu'il y a certaines grosses foncières qui agissent là-dessus, hautement financées par certaines banques, pour faire ces opérations-là.
Mais ils rénovent après les biens, parce que
ils rénovent après les biens.
Mais c'est quoi ? C'est la nouvelle embellie du marchand de biens, quoi, à l'échelle industrielle, quelque part.
Comment expliquer ? Non, on a une réglementation, on a une loi qui a lancé quelque part un timing extrêmement précis. Ça crée une contrainte pour certains et une opportunité pour d'autres.
Et ça crée des opportunités, puisque quand vous êtes liquide et avec un peu de cash, effectivement, vous allez voir quelqu'un qui sait qu'il va devoir faire les travaux, qui ne pourra plus louer, on va lui acheter avec une certaine décote. Bon, c'est le lot, j'allais dire des villes qui parfois trouvent un cadre assez spéculatif. Moi, je voudrais qu'on appuie sur ma question et vous allez y répondre ensuite sur le point, mais sur le fait qu'aujourd'hui, on est réellement sur une tension locative très forte, très très forte, extrêmement forte. Est-ce que finalement ce phénomène que vous venez de décrire ne va-t-il pas accroître la tension qui existe déjà? Et votre président, Jean-Marc Torollion, a prévenu. Il va y avoir un sujet, un vrai sujet, sur le marché locatif. Clairement, ce que Jean-Marc Torollion décrit de façon sous-jacente, mais d'ailleurs le président de la FPI dit la même chose, c'est carrément une crise sociale grave du logement à ce titre-là.
Le timing, le planning imposé par la loi climat et résilience crée en effet une instabilité potentiellement majeure sur le logement. On rappelle quand même, l'éclat G, c'est 2025.
Oui. Combien de chiffres on a des stats là-dessus?
Alors, FEG, je dirais selon la police, 4,8. Voilà, c'était les prévisions. Et selon les manifestants, potentiellement le double.
Oui. C'est considérable.
Donc c'est considérable.
Mais même si c'était 4 800 000 passoires thermiques, entre guillemets, ça serait déjà considérable.
Ça serait déjà considérable, en effet. Et quelque part, ce timing de climat et résilience, on le trouve extrêmement contraignant, un peu clairement dangereux. C'est pas le même que celui indiqué dans une directive européenne, un projet de directive européenne qui étale un petit peu plus, qui garde un bon objectif. Donc, parce qu'il faut avoir de la visibilité on n'a plus le temps d'attendre. Mais par contre, ça permet d'aller d'étaler un petit peu plus plutôt que se couper à 2025.
Les couacs successifs entre le premier DPE de juillet 2021 retiré immédiatement parce que il était complètement largué et plus de 80 000 DPE étaient faux. D'ailleurs, la ministre Emmanuelle Wargon, qui était en charge à l'époque, a annoncé qu'elle prendrait en charge les coûts des nouveaux DPE à cause de ces erreurs. Le nouveau DPE, 1er novembre 2021, est-ce que c'est trop tôt pour tirer un bilan? Est-ce qu'il est adapté encore celui-là? Ou est-ce qu'il va falloir bis repetita ou même une troisième mouture de ce DPE?
Il est voué à évoluer. Ce qu'il faut savoir, les diagnostiqueurs ont reçu de mémoire 15 versions différentes déjà. Voilà. Non, mais la méthode demande.
Eux-mêmes ne sont pas forcément clairs sur ce qu'ils doivent faire aujourd'hui.
C'est pas ça, c'est eux sont peut-être clairs, mais par contre, la méthode était. Bon, on l'a bien vu, elle était faussée, elle est vouée à être améliorée. Après, on n'ira peut-être pas sur un optimum. Donc, ça, c'est sur l'individuel. À l'heure actuelle, il y a tout un débat sur le DPE en collectif, où là, la méthode est encore en cours de calage. Et quelque part, les pouvoirs publics veulent éviter le drame de l'année dernière.
On a déjà connu. Oui.
Voilà. Émission, effectivement, à suivre et beaucoup de vigilance sur ce sujet du DPE. D'ailleurs, avec Nicolas, on en parlera régulièrement. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Pierre-Évrard.
Merci, Sylvain.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le monsieur, en fait, énergie, j'allais dire les choses comme ça, de la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM. Merci avec nous. Vous revenez régulièrement pour nous éclairer de votre expertise sur le sujet. Voilà, on se retrouve demain, Nicolas, et on parlera des tendances immobilières. C'est pas un numéro, on va dire, de mode, non. Il y a des tendances dans l'immobilier. On parlera des indicateurs de marché avec des professionnels en activité, avec toujours autant de plaisir, Nicolas.
On se retrouve demain. Donc, merci Sylvain et à demain.